Bonjour, c'est Renaud Dely, vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute.
Changer de garde-robe en quelques clics, suivre la dernière tendance à petit prix, des sites de vente en ligne chinois comme Chine bouleversent le marché du prêt-à-porter. Cette consommatrice est devenue complètement accro.
C'est pas cher, il y a beaucoup de choix, il y a vraiment un large choix. Et il y en a pour tous les goûts, autant pour l'hiver que l'été.
Ce modèle de shopping compulsif à très bas coût fait un carton. Chine, Alibaba ou encore Primark et Temu séduisent les jeunes et les petits budgets. Mais l'ultra fast fashion coûte cher à l'environnement. L'industrie du textile est l'une des plus polluantes au monde. Et les petites robes pas chères livrées par avion sont fabriquées par des salariés sous-payés dans des conditions souvent déplorables. Un modèle étrillé le mois dernier sur TikTok par ce député LR qui a repris les codes des influenceuses fans de shopping.
On commence, c'est des chaussures trop canon, trop classe.
Trop canon, très classe.
Elles ont été traitées au phtalate, une substance qui est un perturbateur endocrinien qui peut tous nous rendre stériles.
Et clairement sur une pépite.
J'ai pris aussi ce vêtement pour mon bébé. Trop canon, trop classe. Il a été traité au formaldéhyde, une substance potentiellement cancérigène pour les enfants.
Le ministre de la Transition écologique a pris le dossier en main. Il a annoncé ce matin que le gouvernement va soutenir une proposition de loi qui prévoit notamment un malus de 10 euros par article acheté. La mesure sera débattue à l'Assemblée nationale dans 10 jours. Alors faut-il une loi pour freiner l'ascension fulgurante de l'ultra fast fashion qui contraste avec les faillites en cascade en ce moment dans le secteur de l'habillement? Faut-il mettre à l'amende les clients de ces sites de vente en ligne? Les Français achètent-ils et jettent-ils trop de vêtements?
Et merci à tous les trois de nous avoir rejoints pour essayer de répondre avec nous à ces questions. À mes côtés, bonsoir Julia Faure, bienvenue bonsoir. À vous. Vous êtes cofondatrice de la marque Loom et membre du collectif En Mode Climat, Loom étant une marque de vêtements durables et éco-responsables. Selon vous, en France, 70% des vêtements achetés viennent aujourd'hui de la fast fashion ou du low cost. Et l'immense majorité de ces vêtements est produite en Asie, ce qui fait exploser de fait l'impact écologique. À vos côtés, Yann Rivoallan, bonsoir, bienvenue à vous, président de la Fédération du prêt-à-porter. Comme Julia Faure, vous avez d'ailleurs participé aujourd'hui au colloque organisé par le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu sur ce thème, de l'ultra fast fashion à la mode durable, c'était l'intitulé de ce colloque. Et selon vous, Yann Rivoallan, la guerre à la fast fashion est déclarée, mais un malus écologique pourrait augmenter le prix de ces marques, ce qui pourrait avoir un impact très efficace, dites-vous, sur leurs ventes. On verra ça dans un instant. Et puis à vos côtés, Pascal Hébel, bonsoir. Bienvenue à vous, économiste, spécialiste des comportements des consommateurs. Selon vous, il y a une surconsommation évidente sur les vêtements. En France, les placards des ménages sont déjà pleins. Et même si on arrêtait de produire, il y a déjà aujourd'hui de quoi vêtir 10 fois la planète. Tout de suite, Benjamin, vous-même qui êtes fort bien vêtu, ma foi, merci, vous allez ouvrir, je vous en prie, ce débat. Avec un chiffre vertigineux,
7000 nouvelles références de vêtements sont ajoutées chaque jour sur le site de vêtements chinois à très bas coût Shein. Ça peut monter jusqu'à 10 800 selon l'ONG Les Amis de la Terre, et ce grâce notamment, j'ai appris ça, je ne savais pas, à l'intelligence artificielle qui peut créer un flux continu. Et à un instant T, il y a 470 000 modèles de vêtements disponibles sur Shein. C'est vraiment vertigineux. Pourquoi concrètement, Julia Faure, c'est insoutenable pour la planète?
En fait, y a quelque chose qu'il faut toujours avoir en tête, c'est que produire, c'est polluer, même quand on produit quelque chose d'écologique. Un vêtement, c'est pas très polluant à produire individuellement, il n'y a pas de mécanique, il n'y a pas de technologie dedans. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'entre les années 80 et aujourd'hui, on a multiplié par deux la consommation de vêtements en France. Aujourd'hui, un Français moyen, il achète 40 vêtements neufs par an. C'est deux fois plus que dans les années 80. Donc, quand on a multiplié par deux la consommation de vêtements, on a aussi multiplié par deux les externalités négatives qui sont liées à la production.
Mais vous dire que ceux-là, ces vêtements-là, de la fast fashion, ne sont pas plus polluants que les autres, alors, à vos yeux. Il n'y a pas de problème particulier.
C'est la quantité. Mais le truc, c'est que la fast fashion et le low cost en général, c'est la grande majorité du marché. Donc, ce n'est pas mes chiffres, c'est les chiffres de Kantar, l'étude Kantar pour ReFashion. 7 vêtements sur 10 qui sont vendus en France, c'est du low cost. Donc, ils sont produits dans les mêmes pays. Et oui, ce qui est très. Alors, à la fois, c'est problématique parce que chaque vêtement a un impact individuel et en produire beaucoup, ça multiplie les impacts. Mais aussi, le fait qu'il y ait la mainmise du low cost, ça veut dire que l'essentiel de nos vêtements sont produits dans des pays qui sont moins disants socialement et écologiquement. On n'obtient pas des bas prix sans sacrifier quelque part quelque chose. Et donc là, c'est-à-dire que l'intégralité du marché a choisi d'aller produire dans des pays où les normes sociales et écologiques sont les pires possibles.
Yann Rivoy, alors, mais en même temps, c'est vrai, est-ce qu'on découvre tout ça? Parce qu'il y avait H&M, il y avait Zara. C'est là où on se dit, mais est-ce que les choses ont tant changé que ça? On a l'impression de découvrir la Lune.
Alors, tout a changé. Je vais revenir sur le mot de l'intelligence artificielle. Parce que pour faire 8000 produits par jour, 7000, 10000, nécessairement, il faut une intelligence artificielle qui va voler les données de tous les sites qui peuvent exister sur le monde entier, qui va voler les Instagram, qui va voler les achats, les demandes d'achat qu'on peut avoir sur Google. Et grâce à toutes ces datas qui sont récupérées, bah, ils prennent le tout et dans leurs algorithmes, ils arrivent à fabriquer ces 8000 nouveaux produits. Et c'est là où ça change. Oui. Parce qu'avant, évidemment, avec Zara, avec H&M et tous ces gens de la fast fashion qui ont lancé la surconsommation, il y avait déjà beaucoup d'abus. Mais là, les abus n'ont aucun rapport. Avant, il y avait, avec Zara, 500 nouveaux produits par semaine. Et là, on le voit, c'est 7000 par jour. Ouais. Donc, quand on fait 30 fois plus, c'est évidemment avec l'intelligence artificielle dont on a parlé tout à l'heure. Donc, au-delà d'une régulation qu'on peut avoir de l'écologie pour l'écologie, c'est aussi une régulation d'un nouvelle façon de fonctionner, y compris avec l'intelligence artificielle.
Mais Pascal Hébel, on a évoqué d'autres marques, hein, Zara et d'autres, H&M. Est-ce que là, dans le cas présent, pour ce qui est de la fast fashion, Chine et d'autres, il n'y a pas un réflexe de la part des politiques ou des autorités en Occident simplement de s'en méfier ou d'y être hostile parce que c'est chinois?
Oui, bien sûr, mais c'est quand même...
Il y a un réflexe anti-chinois aussi.
Oui, bien sûr, quand c'est Zara et que c'est espagnol et que c'est H&M qui est suédois, évidemment, on va moins faire d'efforts économiques pour les détruire. Donc il y a évidemment cette question-là, mais on voit quand même bien avec les chiffres qui viennent d'être cités que les modèles Chine et Temu ont démultiplié, en fait, hein, cette production. Et surtout, je pense que c'est les réseaux sociaux qui font aussi qu'on crée ce désir qui est démultiplié avec les influenceurs qui vont se mettre en scène... Et il y a vraiment faire entrer les gens en fait, dans cette addiction en fait, de recevoir des nouveaux objets tous les jours. Quoi, en fait, hein. Donc c'est en effet quand même toute la partie digitalisation qui accélère les choses et qui font qu'on est capable en effet, de produire autant de collections, autant d'envies. Et on détecte le produit qui va marcher. En fait, hein. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il suffit même d'avoir que les données de Chine pour savoir... Quel est, comme Amazon le fait, hein, en fait, hein, quel est le produit qu'il faut développer très rapidement parce que c'est celui qui se vend le mieux.
Alors, c'est un phénomène récent. Toutefois, créé il y a 15 ans, la marque chinoise Shein s'est donc imposée, on le disait à l'instant, comme le leader de ce marché de la fast fashion. Et en 2022, hein, il y a à peine 2 ans, cette enseigne en ligne avait créé l'événement en France avec des magasins éphémères qui alimentent la fièvre acheteuse des consommateurs. Regardez, c'est notre archive du jour.
Les ados connaissent tous son nom, Shein, le nouveau géant chinois du prêt-à-porter en ligne. Son modèle, une production ultra rapide, des vêtements à petit prix, renouvelés en permanence. Aujourd'hui, ces magasins éphémères créent l'événement, des heures d'attente ici à Toulouse pour dénicher les derniers modèles. Dans son dressing, Nabila Ben Mouloud, 29 ans, ne jure que par Shein.
Voici le portant de mes vestes. Voici les robes. C'est pas fini, hein? Les sacs de différentes couleurs. Et ici, vous avez tout ce qui est jupes. Je ne les compte plus.
Tous les mois, elle passe une commande pour 50 à 90 euros. Impossible pour elle de s'en passer.
Tous les soirs, je regarde les nouveautés. Ça devient vraiment addictif.
Addictif, c'est le mot Julia Fort. Mais en même temps, on est un peu surpris parce qu'on a découvert aussi qu'il y a des sites internet de revente, d'occasion. Donc on pensait que ça venait compenser justement la production de vêtements puisqu'on achète sur des sites comme Vinted. En fait, ce n'est pas le cas. On continue tout de même à produire et à vendre davantage.
Oui, c'est ce qu'on appelle l'effet rebond, c'est-à-dire que la consommation plus éthique, qui serait la consommation de seconde main, ne s'est jamais accompagnée d'une diminution de la consommation de vêtements neufs. Donc après, je vais vous laisser discuter là-dessus. Mais en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que au lieu de faire du remplacement, la consommation de seconde main a tendance à faire appel d'air en fait, sur la consommation de neuf. Et c'est pour ça que c'est ça qui est terrible, c'est que écoper une baignoire tant qu'on n'a pas fermé le robinet, ça ne sert pas à grand-chose. Et ben, c'est la même chose. Mettre en place la seconde main tant qu'on n'a pas fermé le robinet du neuf, ça ne sert pas à grand-chose.
Yann Rivoy, alors comment vous l'expliquez justement? Parce que dans le marché de l'automobile, de fait, l'occasion s'est développée et on a produit moins de véhicules neufs, mais ce n'est pas le cas dans la mode.
Parce qu'on peut avoir une automobile, trois automobiles, mais il n'y a pas de garage pour avoir plus de cinq automobiles. Alors que quand on voit le reportage...
Le problème, c'est le parking.
C'est vrai que là, il y en a.
Voilà. Et on peut avoir un vestiaire qui est quasiment infini. Et c'est la projection de « Je vais être Pretty Woman » avec un dressing quasiment infini. Donc ce fantasme de pouvoir avoir encore plus de vêtements, et comme on peut le citer sur le site de Temu, d'avoir l'air d'un millionnaire, c'est cette envie et cette addiction dont parlait aussi cette consommatrice, cette influenceuse, d'avoir toujours plus. Mmh. Et dans cette volonté d'avoir toujours plus, il y a un côté positif avec Vinted, parce que de façon circulaire, je peux échanger. Mmh. Donc là, c'est positif en effet. Mais de l'autre côté, malheureusement, avec l'ultra fast fashion, il y a de la surconsommation qui est entraînée continuellement.
Pascal Lebel, on cible les producteurs, à commencer par donc ces enseignes chinoises de fast fashion. Mais en fait, la vraie responsabilité, c'est celle du consommateur. C'est lui qui succombe et qui alimente cette addiction.
Donc c'est vraiment le modèle de consommation tel qu'il existe. C'est-à-dire que finalement, c'est parce qu'il y a des publicités, parce qu'on va mettre des stars qui vont porter des vêtements. Mmh. On crée une frustration psychologique qui vous donne envie d'avoir...
Parce qu'on ne sait pas y résister, justement, aussi.
Oui, et en fait, ce qui se passe, c'est que psychologiquement, quand vous avez, ça y est, vous avez acquis le bien et vous étiez frustré, et bien, en fait, vous avez de nouveau un désir pour autre chose. Et donc, c'est ce modèle-là qui s'est mis en place dans les années 50 et on n'en sort pas. Et c'est vrai qu'on aimerait bien aller dans l'autre sens, mais on voit bien que dans le vêtement, on a créé des nouveaux modèles qui créent de plus en plus de désirs. Et c'est là-dessus qu'il faut en effet lutter, parce que même ceux qui vont acheter du Chine, il y a 18% de Français qui en achètent tous les ans, ils savent que ce n'est pas forcément bien, mais ils ne peuvent pas parce que c'est une addiction, c'est vraiment psychologique.
Mais alors, pour rompre avec cette addiction, pour la contrer, c'est quoi la solution, Julia Faure ? C'est de taxer davantage ? C'est ce que prévoit visiblement le gouvernement ? Une sorte d'éco-contribution modulable, ça peut être une solution, vraiment ?
C'est une partie de la solution. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la solution, on ne peut pas l'attendre ni d'un changement volontaire des entreprises, puisqu'elles sont globalement incitées économiquement à aller vers les pires pratiques. Parce que globalement, si vous faites... si vous délocalisez, par exemple, du Portugal vers le Bangladesh, ça vous coûte moins cher. Donc, vous avez un avantage compétitif à mal faire, une prime au vice. Donc, on ne peut pas compter sur le changement spontané des entreprises, on ne peut pas changer sur le changement spontané des consommateurs. Il y a eu des scandales dans le textile depuis les premiers scandales, c'était les enfants qui cousaient les ballons Nike. Mmh. Puis, il y a eu le Rana Plaza, puis il y a eu le scandale des Ouïghours, et ça n'a pas fait évoluer le comportement des consommateurs dans le bon sens. Au contraire, on voit, on n'a jamais eu autant de vêtements low cost qui sont vendus en France. Donc, la seule chose, c'est la réponse législative. Donc, bien sûr, pénaliser les marques qui ont les pires pratiques, c'est important, mais ce n'est pas la seule chose, c'est pas le seul outil. Il y a l'interdiction et la régulation de la publicité, quelque chose d'important aussi. Et au niveau européen, il y a aussi la loi du devoir de vigilance qui oblige les enseignes à devoir rendre des comptes s'il se passe des drames sociaux et écologiques dans leur chaîne de production, comme c'était le cas pendant le Rana Plaza. On a retrouvé des étiquettes, par exemple, de Carrefour.
C'était un incendie au Bangladesh, d'un immense centre de production avec beaucoup de victimes.
Exactement. On a retrouvé des étiquettes de marques françaises, Carrefour, etc., qui n'ont jamais été tenues responsables de ce qui se passe, de ce qui se sont passés dans les usines. Si cette loi s'appliquait, eh ben je peux vous dire que les marques y réfléchiraient à deux fois avant d'aller produire dans des pays qui sont moins disants socialement et écologiquement.
Sur la question, Yann Rivoallon, de cette taxation, de cette taxe malus écologique, on parle de quel ordre de grandeur ? 10 euros, par exemple, par vêtement vendu, ça vous semblerait raisonnable, comme c'est la piste qui est évoquée, où il faut taxer davantage ?
Alors, c'est très simple. Je vais prendre le panier moyen de Chine, c'est 52 euros. Mmh. Et une pièce Chine, c'est 10 euros. Donc, à peu près 5 pièces à chaque fois. Eh bien, à partir du moment où on met un malus de 10 euros par pièce, le panier va passer de 52 euros à plus de 100 euros. Donc oui, évidemment, c'est efficace parce que ça va être deux fois plus cher. Et quand on rentre dans 100 euros, on est beaucoup moins dans l'addiction, comme le disait justement Pascal tout à l'heure. On est dans une réflexion qui va être plus importante. Et les marques françaises qui font beaucoup plus d'efforts, je prends par exemple un Kiabi qui travaille sur le compte au bio, sur Monoprix aussi qui travaille sur la qualité, je sois de tous ces produits, on rentre dans des prix français qui sont beaucoup plus normaux.
Ce n'est pas le cas pour Decathlon, par exemple, ou d'autres marques en France. Nous, Leclerc, je prends les marques distributeurs qui vendent des vêtements qui sont aussi fabriqués et qui, eux, ne seraient pas touchés par cette taxe, par exemple.
Et seraient touchés à partir du moment où, justement, ils dépassent un certain nombre de références par jour. Mmh. C'est là où la loi, justement, est très intéressante. Parce que ce qu'on demande à Chine, c'est d'arrêter de faire ces 7000 références par jour. S'ils descendent à juste 1000 références par jour, ils auront un malus qui sera beaucoup plus faible. Et s'ils rentrent encore dans des volumes qui sont encore plus faibles, là aussi, ça ira. Le problème de ces 7000 références, c'est que ça entraîne l'addiction et que ça entraîne la surconsommation. Ce que ne font pas les marques françaises, justement, avec des ratios bien inférieurs.
Mais taxer, Pascal Lebel, ces produits, ces vêtements à tout petit prix, est-ce que c'est un malus écologique ou est-ce que c'est une taxe sur les pauvres ?
Alors, je pense que sur cette question de taxes qui, en effet, peuvent pénaliser plus les pauvres, il faut savoir que le budget de l'habillement, il est quand même plus élevé chez les plus riches. Ce n'est pas le cas sur l'alimentation ou ce n'est pas le cas sur le logement.
C'est plutôt les gens plus modestes qui, en général, se tournent vers
alors,
ce type
de marque.
Alors,
c'est ceux qui vont dans la fast fashion, mais ce n'est pas ceux qui dépensent le plus sur le vêtement. Donc, ce n'est pas forcément ceux qui vont être le plus taxés. Et en effet, on sait que si ça se développe, c'est bien parce que les prix ont été divisés par deux. Donc en effet, si on les aide à moins acheter, et on est certain que d'augmenter le prix, c'est et parce qu'ils achètent ça qu'essentiellement parce que les prix ont été divisés par deux, par trois.
On est sûr qu'on va pouvoir le revendre ensuite sur Vinted, ça ne va pas forcément empêcher d'acheter le fait que ce soit plus cher.
Oui, mais parce que si on les remet dans le circuit de l'occasion, même si on sait qu'il y a des effets rebonds où en fait, les gens qui sont sur Vinted, en général, ils achètent plus que ce qu'ils revendent. Hein, ils sont aussi addicts aux vêtements. Donc oui, ça sera quand même plus bénéfique parce qu'ils vont en acheter moins, en fait. Hein, même s'ils les revendent après, c'est quand même plus long comme process. Et c'est un peu ça qui est voulu.
Alors, parole à la défense. Voilà ce que dit la porte-parole de Chine en France, Marion Bouchu. Pour réduire l'impact environnemental, il faudrait, dit-elle, que tous les acteurs de la mode, le luxe y compris, soient soumis aux mêmes initiatives. Julia Faure, c'est vrai, on se dit pourquoi y a-t-il un deux poids, deux mesures ? On a grandes marques françaises qui produisent aussi et qui, avec un coût environnemental important.
Non, moi, je suis d'accord. Je pense que les règles, elles doivent... Enfin...
Mais vous pensez qu'elles accepteront ? Vous pensez que ça peut se faire ?
Je pense que c'est... Je pense
qu'on a des fleurons qui aujourd'hui portent l'exportation française.
Mais attendez, là, c'est... Enfin, par exemple, là, qu'est-ce que vous propose cette loi ? C'est qu'il y a une pénalisation si vous proposez trop de nouveautés. Bon, ça doit s'appliquer à tout le monde. Et ça doit s'appliquer aussi bien aux marques françaises.
Ça c'est ce qu'on appelle de l'écologie punitive, non ?
Alors, ça, c'est marrant. Ça,
pénaliser...
Ça, c'est l'argument, de Chine, d'ailleurs, qui dit « Ah, vous pénalisez les plus pauvres ». Donc, ils reprennent cet argument de l'écologie punitive. Vous verrez que cet argument ne vient pas, hein, ni d'associations de solidarité. Il y a ce projet de loi, il y a Emmaüs, par exemple, qui a proposé des amendements et qui est pour qu'il y ait une pénalisation de la fast fashion. Pourquoi c'est différent de la taxe carbone ou de la TVA ? Déjà, ce n'est pas une taxe. C'est une éco-contribution, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui s'applique sur le vêtement, c'est une éco-contribution, c'est-à-dire que c'est une amende, un malus que doit payer l'entreprise. Et cette éco-contribution, elle existe déjà. Les marques, elles payent déjà une éco-contribution, quelques centimes, pour chaque vêtement qu'elles mettent sur le marché. Il y a un peu d'argent qui est collecté et qui sert à gérer la fin de vie du produit. Ce que propose donc la députée Violent, c'est d'augmenter cette éco-contribution et de dire, bah, si vous êtes, plus vous faites de la fast fashion, plus cette éco-contribution elle est importante, moins vous en faites, moins cette éco-contribution est importante. Et si Chine ne veut pas payer cette éco-contribution, c'est bien simple. Il suffit qu'ils baissent le nombre de références qu'ils produisent chaque jour. C'est exactement comme les villes. Vous savez, elles ont elles sont obligées d'avoir un certain pourcentage de logements sociaux sur leur terrain. Eh bien, si elles ne respectent pas ça, elles payent le malus. Mais si elles le respectent, elles ne le payent pas. Donc, aux marques d'ultra fast fashion de choisir. Soit elles s'adaptent en ayant des comportements qui sont plus vertueux, soit elles payent.
Reste une autre question, Anna, c'est de savoir évidemment si ces enseignes de fast fashion sont aussi une forme de concurrence pour d'autres enseignes installées. Et on peut constater qu'en tout cas, en 2023, eh bien, les enseignes dites moyenne gamme ont vraiment vécu une année noire.
Oui, une année noire avec plus de 1600 magasins fermés en 2023 et des placements en redressement et liquidation judiciaire qui se sont succédés. Koukaï, Camailleux, Pinky, Naf, Gap France et plus récemment Burton. Alors pourquoi autant d'enseignes en difficulté ? Eh bien parce que ces marques phares des années 90-2000 n'ont pas réussi à se renouveler en termes de collection déjà. Elles se sont fait rattraper par des poids lourds, on en parlait tout à l'heure, comme Zara et H&M. Mais elles ont aussi raté le virage de la vente en ligne. À la place, elles ont préféré ouvrir de nouveaux magasins et avec la crise sanitaire et ensuite l'inflation, eh bien ça a été le coup de grâce, des loyers commerciaux qui augmentent, des dettes importantes et donc l'impossibilité de réaliser des investissements. Mais aujourd'hui, cette tendance, eh bien, elle touche aussi des marques un petit peu plus premium. Comptoir des Cotonniers et Princesse Tam Tam, par exemple, ont annoncé la fermeture de 55 magasins. IKKS devrait en fermer 77 et le groupe SMCP, qui regroupe les marques Sandro, Maje et Claudie Pierlot, a annoncé lui aussi revoir ses prévisions à la baisse. Yann Rivoallon, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a que les secteurs du luxe et de l'ultra fast fashion qui peuvent être rentables aujourd'hui ?
Alors en effet, on a un sablier qui est en train de se créer entre d'un côté le luxe qui continue à se développer et de l'autre côté la mass fashion, on pourrait dire, qui évolue. Mais pour reprendre quand même les points dans les crises de la mode, quand je reprends toutes les marques anciennes que vous avez pu citer, que ce soit par exemple Camailleux ou encore Gap, là aussi c'est quand même un problème de mauvais gestionnaire.
Ou, de gouvernance.
Voilà, donc il y a aussi quand même des personnes qui ont détruit ce tissu.
Et donc ça veut dire qu'en France, on n'est plus capable aujourd'hui de fabriquer et de vendre de la mode, enfin une ère numérique.
Alors il y a cette capacité, je prends aussi beaucoup de ces anciennes, je prends par exemple Nafnaf. Nafnaf s'était lancé en e-commerce en 2008, ils avaient mis en place le click and collect en 2010, ils avaient mis en place des réservations en boutique, ils avaient fait beaucoup d'initiatives. Donc ces sociétés se sont transformées petit à petit, mais quand en face on a des acteurs justement comme Shein qui maintenant depuis plus de 10 ans mettent dans la tête de leurs clients qu'un t-shirt ça vaut 3 euros. Quand on est à côté de chez soi et qu'on arrive voilà, et qu'on voit un t-shirt à 10-15 euros, on se dit c'est trop cher. Or ces 10-15 euros c'est avec une vendeuse qui est payée, c'est avec un magasin qui est payé et avec toutes les charges justement qui sont normales dans notre pacte social. D'où l'interdiction ou le blocage de toute société de la fast fashion pour permettre à toutes ces marques françaises de se transformer hors des mauvais gestionnaires dont j'ai parlé. Et cette transformation permettra, entre l'innovation d'un côté et la seconde main de l'autre, de pouvoir avoir une nouvelle mode.
Mais vous dites aussi que c'est la fin des magasins, donc.
Non, c'est pas la fin des magasins. C'est en effet une diminution du nombre de magasins. Ça, c'est sûr. Il y a eu trop de magasins. Il y a eu une inflation de magasins qui s'est créée ces 15 dernières années, c'est indéniable. Mais depuis le Covid, on est revenu sur la normale. On a encore une diminution, je pense, en fait, de 10 à 20% du nombre de magasins. Mais on a encore besoin de ces magasins. Et d'ailleurs, si ces magasins n'existent pas, imaginez des villes, et ça a été le cas de Béziers, par exemple, où il y avait près de 50% des magasins qui étaient fermés en centre-ville. À ce moment-là, l'union qu'on peut avoir entre nous, entre tous les acteurs de la ville, se délite. D'où la nécessité de créer encore des magasins et d'avoir des pouvoirs publics qui permettent justement cette vie sociale, sinon on perd quelque chose.
Mais pardon, mais Pascal Hébel, on est en train de parler d'une sorte d'économie administrée, c'est-à-dire on va augmenter les prix pour que les gens soient plus sobres. On marche un peu sur la tête quand même. Ceux qui nous regardent, ils se disent, bon, ben voilà, il va falloir que je paye davantage, je vais avoir moins de liberté dans mon choix. C'est ça qu'on est en train de dire aux gens actuellement.
Oui, c'est en effet, il faut qu'on arrive à quand même à réglementer pour finalement changer un petit peu cette image, cet imaginaire autour du trop consommé. C'est-à-dire qu'on comprend qu'il y a des gens qui deviennent addicts. Donc il faut bien arriver quand même à... On le fait sur le jeu, on empêche les gens de continuer à jouer quand ils... Et là, on sent qu'il y a quand même un modèle qui a été beaucoup trop loin et qui empêche les gens finalement même d'avoir une économie à leur
échelle. Donc on les sanctionne. On est en train de parler de sanctions tout de même.
On ne les sanctionne pas parce qu'ils iront vers autre chose. Les enseignes qui vont s'en sortir, ce sont celles qui font de l'occasion. Il y a quand même le marché de l'occasion qui permet d'avoir...
J'ai pas l'impression qu'on fasse un cadeau ni aux consommateurs ni aux citoyens en les laissant...
Il y a les consommateurs, il y a les citoyens, puis il y a les salariés de ces secteurs aussi, puisque les multiples enseignes qu'on a évoquées et qui ont fermé des magasins ces derniers mois, ces dernières semaines, bah, c'est des suppressions d'emplois aussi.
Et ça remontait avant, hein. Enfin, en fait, qu'est-ce que c'est ?
Est-ce que ces taxes, ces éventuelles mesures justement pour réglementer le secteur ne vont pas produire davantage de destruction d'emplois ?
Ah non, au contraire. Ah, merci. En fait, il y a vraiment quelque chose qui se passe en France qui est assez intéressant. Plus on vend de vêtements, plus on détruit de l'emploi. C'est vraiment assez incroyable. Parce qu'en
même
fait,
quand on ferme des magasins, comme le disait votre voisin
là,
à l'instant.
Il y a Camailleux, tout ça qui ont fermé, on a quand même commencé à consommer plus de vêtements. C'est-à-dire que la fermeture de ces magasins, ce n'est pas lié à une décroissance ou à une sobriété. Au contraire, c'est lié à une accélération de la consommation qui est entre autres poussée par ces marques d'ultra fast fashion. Et... c'est assez intéressant, c'est comme on peut se dire, ah ben sur la route, avant on n'était pas obligé de mettre la ceinture, maintenant on doit mettre la ceinture, avant on pouvait rouler à 200 et maintenant on doit rouler à 110, on a de moins en moins de liberté. Oui, mais c'est pour l'intérêt général et c'est exactement la même chose qui se passe dans la mode. On n'a rien gagné en tant que pays avec l'essor de la fast fashion. On a perdu depuis les années 90 300 000 emplois dans l'industrie. On a perdu depuis les années 70 30 000 emplois dans le commerce. Le textile, c'est... 12 milliards d'euros de déficit commercial par an. C'est notre troisième industrie déficitaire. C'est 20% du déficit hors énergie. Quand c'est des entreprises qui disparaissent, c'est aussi des cotisations sociales qui disparaissent. Ça veut dire que l'école est moins financée. Ça veut dire que l'hôpital est moins financé. Donc, en tant que pays, et je ne vous parle même pas des aspects écologiques dont on a parlé avant, en tant que pays, on n'a rien à gagner à faire venir en masse ces vêtements de l'autre bout du monde. On a tout intérêt à légiférer. Et ce que perd le consommateur, c'est le citoyen qui le gagne.
Ce sera le mot de la fin, en tout cas pour ce soir. Merci. Merci à tous les trois d'avoir répondu à la question du jour. Merci d'être venu débattre sur ce plateau. Retrouvez le podcast de 28 minutes sur toutes les plateformes de podcast et sur arteradio.com. Et pour soutenir l'émission, abonnez-vous, commentez, critiquez, mettez des étoiles et partagez le podcast avec vos proches.